Disons qu'il n'y a rien d'écrit, donc il n'y a pas de protection en termes officiels. Mais c'est sûr que le fait que c'était les gens qui étaient dans l'église du Béguinage et que c'était des gens qui avaient mené une longue lutte a fait que quand ils sont habités dans ce lieu-là, d'une certaine manière, on ne les a pas embêtés, on va dire. Et qu'ils étaient aussi tous en procédure de régularisation. À l'époque, donc, c'était après la loi de 99, donc tous les premiers habitants étaient en procédure de régularisation et ont d'ailleurs tous été régularisés. Donc de cette époque-là, il reste encore seulement deux personnes qui n'avaient pas introduit en fait le dossier. Et puis après, par la suite, j'imagine que c'est le fait que l'action a continué, qu'elle est reconnue par...
qu'elle est tolérée.
Elle est reconnue par les travailleurs sociaux au niveau de l'accueil. Et que son historique fait qu'on lui cherche pas d'être trop de noise. Il y a déjà eu une rafle, donc quand même, faut quand même le dire. Donc il y a eu une rafle en fin 2001 où ils ont arrêté tout le monde, mais ils ont été relâchés suite aux articles qu'il y avait dans la presse à ce moment-là et différentes choses qui ont fait que les questions parlementaires qu'il y a eu, pourquoi est-ce qu'on arrête des gens qui sont en procédure, qui se mettent ensemble pour rendre leur vie plus acceptable le temps qu'ils sont en procédure, vu qu'il y a le fait que vous rentrez dans une procédure de régularisation, vous n'octroie aucune aide. Donc en fait, on laisse les gens introduire des dossiers et on les laisse en fait sans aide sociale parfois pendant comme ça des années où ils ne sont pas censés pouvoir travailler rien. Et donc voilà, c'est un ensemble de choses qui font que. Il n'y a pas d'action plus directe et plus immédiate contre l'ambassade, même s'il y a toute une série de petites choses, mais voilà. Donc il y a deux choses en fait. En 99, il y a eu une loi, il y a eu une régularisation importante, on va dire, une opération de régularisation ponctuelle et importante qui a touché finalement quelque chose comme 50 000 personnes qui ont pu être régularisées. Et ça, effectivement, ça a été obtenu parce qu'il y a eu une mobilisation importante du secteur social, de certains milieux politiques qui ont fait qu'à un moment donné, et aussi parce qu'il y avait énormément de sans-papiers, il y en a de nouveau beaucoup, mais disons qu'il y a eu cette régularisation qui était très ponctuelle. Et donc, par contre, le traitement des dossiers, lui, a duré très très longtemps. Ce qui fait que les personnes qui étaient dans l'église du Béguinage avaient introduit des demandes, mais... il y avait quelque chose de particulier qui était qu'ils ne voulaient pas se séparer tant qu'ils n'avaient pas été régularisés. C'était des gens, si vous voulez, qui avaient mené cette lutte et qui disaient, nous, on reste ensemble tant qu'on n'a pas nos papiers.
Tout le monde.
Voilà, mais aussi, donc après la loi. Donc, et voilà, donc c'est ça. Maintenant, effectivement, la situation est différente vu qu'il n'y a plus de loi de régularisation. Il y a juste des pratiques administratives, ce qui est très différent. Voilà, mais on peut parler peut-être de ce qui se passe maintenant, mais je ne sais pas si...
En fait, les États européens, comment dire, essaient de se débarrasser petit à petit du contenu de la Convention de Genève que tous ces États avaient ratifié, donc qu'ils devaient accorder, qu'ils devaient accueillir les personnes qui rentrent, qui ont besoin de protection, comme le cas qu'on a vu, ce qu'on a vu dans le film est très parlant. On a vu comment le type se fait remballer à gauche à droite. Et quelles sont les méthodes qu'on utilise, les méthodes plus qu'inacceptables dans des États démocratiques que les chefs, souvent les chefs d'État vont donner des leçons aux autres pays, ce qu'on appelle le tiers-monde sur les droits de l'homme et tout ça. Alors comment les réfugiés et les immigrés en général sont traités ici, c'est assez paradoxal et c'est assez contradictoire, le discours et les pratiques. Et c'est des réalités, qu'ils arrivent souvent à cacher à la population, aux populations. Peu de gens, je crois, connaissent et savent ce qui se passe, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il y a des centres fermés, qu'on enferme les gens ici en Europe, rien que parce qu'ils n'ont pas un document de séjour et que ça peut durer des mois, en plus de brutalité. Rien que l'enfermement en soi, c'est assez brutal. En plus de ça, il y a d'autres formes de brutalité. Et on a eu, tout le monde, je me rappelle du cas du Seigneur Adamo, et de comment ces expulsions sont pratiquées, ça continue jusqu'à nos jours, maintenant, mais ça a tendance, comment ils arrivent tout le temps, à cacher cette réalité, et les médias aussi, rarement, on en parle, il faut attendre que quelqu'un crève pour qu'il y ait vraiment un cas spécial pour que les médias en parlent de ces sujets-là.
En fait, moi, ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est un peu une chasse aux réfugiés et en même temps, le fait de ne pas vouloir des réfugiés en Europe est un peu un alibi. Parce que quand on prend le cas de l'Italie, ils ont passé des accords avec la Libye où ils vendent des armes à la Libye, soi-disant pour que la Libye puisse protéger ses frontières et que l'Italie ne se retrouve pas avec des réfugiés qui passent par la Libye. Et je pense qu'en Belgique, c'est aussi, y a aussi les politiques. D'un côté, ils disent qu'ils ne veulent pas de réfugiés, ils ne veulent pas de demandeurs d'asile, mais ils sont bien contents quand ils ont des clandestins parce que ça fait travailler l'économie souterraine et qu'ils peuvent exploiter les personnes qui sont sans papier. Ils sont vraiment dans tous les domaines, que ce soit aussi au niveau de certains propriétaires. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des actions à ce niveau-là, au niveau politique ?
L'autre jour, on parlait dans une réunion et on donnait un calcul simple en tenant compte, par exemple, d'un nombre approximatif de 100 000 sans-papiers ici en Belgique. On n'est pas loin de la réalité, c'est plus ou moins ça. On ne sait pas combien il y en a parce qu'on ne peut pas les compter, mais en tenant ce chiffre-là, ce n'est pas beaucoup en comparaison, par exemple, avec l'Espagne où il y en a beaucoup plus. Mais en tenant compte que ces 100 000 papiers... 80%, 90% de ces personnes travaillent parce que ce sont des travailleurs sans papier la plupart, dans des travaux de chantier, femmes de ménage et autres. Que chaque personne gagne par exemple, disons 500 euros par mois. Que de ces 500 euros par mois, ils envoient, disons, 100 à 150 euros dans leur pays. Qu'est-ce qui se passe avec les 350 autres euros qui restent ici? Mais en mettant, disons, simplement ces calculs dans la tête, on peut arriver à comprendre quel est l'apport économique d'un sans-papier ici en Belgique et de quelle façon cet apport économique est blanchi quelque part par l'État, parce que d'après eux, ces gens-là n'existent pas. Donc, vu qu'ils n'ont pas une existence légale, ils ne sont pas censés être là, et donc cet argent qu'ils gagnent et qu'ils réinvestissent chaque fois qu'ils vont acheter un pain ou qu'ils achètent des chaussures ou une chaussette, ça n'existe pas. Donc, comment l'État belge justifie alors ces milliers d'euros qui rentrent tous les X temps dans leur caisse? Ça, c'est une grande question qu'on se pose tous. Par rapport à ce que disait Mohamed, les gens ne savent pas très bien ce qui se passe ici en Belgique. Hein. Ils ne savent pas qu'il y a des centres fermés, ils ne savent pas qu'il y a des rafles continuellement, ils ne savent pas que par mois, on expulse plus ou moins un millier de sans-papiers. Ça, ce sont des chiffres réels. Au mois d'août, il y a eu encore deux sans-papiers qui sont morts. Un qui s'est suicidé dans un centre fermé et un autre qu'on a dit qui s'était suicidé à la prison des forêts. Il y a eu des rafles importantes, 120 sans-papiers dans une opération policière dans les cabines téléphoniques. Il y a eu dans un chantier au bord de la gare de Midi encore une centaine de sans-papiers arrêtés. Et donc ce sont des choses qui arrivent continuellement, tout le temps, toutes les semaines, tous les mois. Et donc c'est difficile de pouvoir en parler parce que comme il disait, les médias n'en parlent pas.
Par rapport à ce que disait madame, je trouve ce que vous disiez très intéressant dans le sens où la question du travail est fondamentale par rapport à ces questions d'immigration, la question d'immigration en général. La question du travail est la question centrale. C'est les transformations du marché du travail qui font que le marché du travail a besoin de plus en plus de main-d'œuvre précaire pour faire tourner la machine et pour réduire les coûts de production dans le système économique qu'on connaît, comment il marche, comment il est géré. C'est la grande jungle. Et c'est ça, là, ça pose un problème dans le sens où normalement, les organisations syndicales, leur rôle est de d'organiser la solidarité entre les travailleurs, c'est, là, il y a un, comment dire, là, ce rôle-là n'est plus joué par les organisations syndicales, et ils sont de plus en plus, bon, par rapport à ces questions, ils disent que c'est niet, ils sont contre la régularisation, par exemple, des sans-papiers, parce que c'est une demande du patronat, ça c'est la logique syndicale actuelle, depuis des années, depuis plus d'une dizaine d'années, parce que c'est une demande patronale pour avoir énormément de main-d'œuvre, et ça va influencer les conditions du travail et les salaires des travailleurs, je veux dire, légaux et, bon, ou nationaux, vers le bas. Ça c'est, je dirais, l'analyse et le discours syndical qui fait que on laisse, bon, les organisations syndicales ne s'impliquent pas dans ces questions-là et freinent un peu leurs membres pour qu'il n'y ait pas des formes réelles de solidarité entre les travailleurs, que ce soit avec ou sans papier.
Oui, nous aussi on a 150 000 personnes sans papier, et c'est aussi dans une zone un peu grise que tout ça se passe. C'est pas très bien défini, c'est un peu toléré, un peu renvoyé, un peu, mais c'est pas très clair. Mais moi je voudrais défendre un peu son attitude par rapport au monsieur qui a dit que les médias en parlent. Moi je trouve, c'est vrai, on a des, en Suisse, je peux parler de la Suisse, hein, on a des informations là-dessus. Mais ce qui me manque souvent chez les médias, c'est de vraiment sensibiliser pour le problème et le point de vue des réfugiés ou des sans-papiers. C'est ça qui manque, je trouve. Et très souvent, c'est assez vite parlé et pas avec suffisamment de sensibilité. C'est quand même des gens avec des sentiments, avec une vie, avec des désirs et tout ça. Et ça, je trouve, très souvent, les médias oublient ça.
Donc nous, la manière dont on fonctionne, c'est donc on n'a pas de subvention. Les gens qui viennent donner un coup de main sont tous bénévoles. Donc nous, tout ce qu'on organise, c'est le logement. Donc le logement est gratuit. On ne demande pas de loyer. On paye les charges de la maison. Et voilà. Et pour le reste, bon, on a un contrat avec la banque alimentaire. On essaye de trouver toute une série de moyens de financer la maison, mais évidemment, bon, on ne s'est pas lancé dans la recherche d'emploi, on s'est dit que ça risquait quand même d'être un peu dangereux comme pratique, mais bon, évidemment, voilà, c'est la situation, quoi.
Mais moi, je me demande quand même, pour avoir un peu un débat, si ce n'est pas intéressant d'avoir des gens qui travaillent, et où on ne doit pas payer des charges sociales, pas payer les vacances, qui travaillent, qui doivent être très contents de gagner quelques sous, c'est quand même pas mal, non, qu'il y ait tout ça. Donc il y a un certain cynisme parce qu'on ne veut pas les intégrer.